Une trajectoire sage compte tenu du manque de visibilité. C'est ainsi que Nadège Fèvre, vice-présidente de la province Nord, a qualifié les orientations budgétaires 2026. Un budget qui dépendra de l'évolution des discussions avec l'État. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite simplifier la taxation des petits colis express face à l'explosion du e-commerce. Objectif, moins de paperasse, des taxes forfaitaires plus claires et un soutien renforcé aux opérateurs locaux. L'urgence sociale au cœur des préoccupations de l'USOINC, l'Union des syndicats souhaite des mesures fortes pour les Calédoniens en difficulté. La rentrée universitaire débute la semaine prochaine pour les premières années. Si le côté administratif prend beaucoup de place, il faut aussi penser au logement. Il est à peine âgé de 11 ans et s'illustre déjà dans les compétitions jeunes de karting en Australie. Rencontre avec le Calédonien Raphaël Gilles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les finances de la province Nord au cœur des débats aujourd'hui à Koné. Les élus ont dressé le bilan de l'année 2025 et discuté des orientations budgétaires pour l'année 2026. Des orientations sincères dans un contexte marqué par une forte incertitude, Charlotte Coulson.
En 2025, les élus avaient dû construire un budget avec près de 5 milliards de recettes fiscales en moins. Ils n'ont eu d'autre choix que de faire des économies. Gel des postes, départs non renouvelés, temps partiel majoré, réduction des frais de déplacement. Au total, 1 milliard et 690 millions ont été économisés en 2025 et ont permis de dégager un taux d'épargne positif. Des choix budgétaires ont été faits sur le soutien aux populations, l'aide médicale ou les bourses scolaires en priorité. Au final, les indicateurs financiers restent dans le rouge, oui, mais remontent par rapport au dernier bilan. Pour l'année 2026, l'exécutif a choisi de présenter une trajectoire sage compte tenu du manque de visibilité. C'est ce qu'a dit Nadège Fèvre, la vice-présidente de la province Nord. Une incertitude marquée au niveau national comme local. Dans son dernier rapport, le gouvernement annonçait une assiette de répartition à 101 milliards de francs. Mais ce montant n'est pas garanti. Il dépend des échanges avec l'État pour compenser la perte de recettes fiscales. La province Nord choisit donc de baser ses projections sur une assiette de répartition à 73,5 milliards, tout en insistant, cette somme n'est pas viable pour la collectivité. Pour ses orientations 2026, elle maintient ses efforts et maintient aussi la sanctuarisation de certains secteurs. Patrice Goa, élu de la majorité unie à la province Nord.
Le contexte, il est dégradé, donc ça, on ne l'apprend pas. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est de dire qu'on est en responsabilité. C'est qu'il est nécessaire, plus qu'hier aujourd'hui, dans la gouvernance, de donner des priorités. Donc en termes de secteur priorisé, c'est le service au public, à la population. C'est aussi tout ce qui est lié au social. C'est aussi l'enseignement, ce qu'on donne à nos différents enseignements, c'est nos bourses, c'est la formation professionnelle. Mais ce sont tous les efforts, et notamment tout ce qui est hors plan, tous les efforts dans la structuration que l'on doit faire avec les outils à un moment donné qu'on a mis en place.
Du côté de l'opposition, tout le monde s'accorde à dire que ces propositions sont responsables. Pour Wilfried Weiss, le chef du groupe Agissons pour le Nord, il faut réfléchir à des initiatives pour augmenter les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie.
On voit qu'aujourd'hui, on équilibre les comptes avec le fonds de roulement, on équilibre aussi avec des emprunts, etc. Donc il faut absolument que la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie se rétablisse. Et pour se rétablir, il faut absolument que le climat politique revienne à la normale et puis que l'économie redémarre. Si l'économie redémarre, on pourra avoir des nouvelles recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, elles vont aussi bien profiter à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes. On est en attente d'une aide massive de l'État. On voit très bien que dans la mesure où la politique nationale est au plus mal aussi, ça n'arrange pas les choses pour nous.
Même constat pour le groupe UCFLNKS qui soutient ses orientations budgétaires. Henriette Mahé, chef de groupe, maintient que la fiscalité doit demeurer une compétence du gouvernement et non des provinces.
Aujourd'hui, on est dans le maintien du minimum et notamment par rapport aux aides sociales. Pour l'instant, on arrive à le maintenir. Ce qui nous inquiète fortement, c'est on n'a pas de visibilité au niveau de la Nouvelle-Calédonie, comme ça a été dit, et que pour l'instant, on se base sur la compensation de l'État qui va être formalisée, on espère, puisque ça aura une incidence sur toutes les collectivités. Et il faut le rappeler, notre budget est composé en grande partie de la fiscalité qui est levée par la Nouvelle-Calédonie. Et notre inquiétude, c'est qu'il faut que ce principe-là reste.
Le budget primitif de la province Nord sera examiné lors de la prochaine assemblée qui se tiendra le 27 février.
Et l'indignation, c'est l'émotion qui prédominait après une agression et plusieurs faits de délinquance commis sur la commune de Koumac ces derniers jours. Lundi matin, un homme a été poignardé au ventre alors qu'il tentait de stopper un individu en plein vol à l'étalage. Un peu plus tôt, dans la nuit du 24 janvier, l'entièreté des infrastructures et du matériel du district forestier nord de Koumac a été réduite en cendres. Des actes dénoncés par le président de la province nord, Paul Néaoutine, et également par le maire de Koumac, Wilfried Weiss. Des dispositifs ont été mis en place pour accompagner la jeunesse au sein de la commune. Mais la difficulté, c'est que la délinquance vient souvent d'ailleurs, comme l'explique le maire.
Ces incivilités, on en a eu en 2021, on en a eu en 2022. On a essayé de mettre des structures en place. Non, c'est l'SPD qui fonctionne très bien. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a des actes d'incivilité qui sont liés à des gens qui viennent de l'extérieur. Là, par exemple, c'était un jeune de Poum, mais on a aussi des exactions de gens qui viennent de Calagomène, de Ouégoua, etc. Donc, on est au carrefour du Nord et c'est très, très difficile à gérer ce genre d'incivilité parce que même si on met en place des choses, nous, au niveau de la commune, pour nos jeunes, pour essayer de faire de la prévention, on ne peut pas faire de la prévention sur l'ensemble des communes environnantes.
Rappelons que l'homme de 29 ans, ayant asséné le coup de couteau, a été interpellé par la gendarmerie et présenté à la justice cet après-midi. Quant aux individus à l'origine des incendies du district forestier nord, ils sont toujours recherchés. Notez cette information toujours en province nord. Un second point de délivrance des permis de chasse ouvrira dès la semaine prochaine. Objectif, renforcer l'accessibilité du service public et de faciliter les démarches des usagers du territoire. Désormais, les permis de chasse pourront être délivrés à l'hôtel de la province Nord. Le point de délivrance historique au district forestier ouest, anciennement eau et forêt, reste également ouvert, de même que les autres sites en province Nord, soit Koumac, Yengen, Pointe-d'Imier, Canala et Wailou. Un régime de taxation simplifié applicable aux envois express de faible valeur. C'est l'objet d'un projet de loi du pays arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après passage devant le Conseil d'État. L'objectif est d'adapter la réglementation douanière aux évolutions du commerce international et aux besoins des opérateurs locaux. Jean-François Baudin.
C'est une problématique internationale à laquelle n'échappe pas la Nouvelle-Calédonie. Le fret express connaît une forte croissance en raison notamment de l'essor du e-commerce et du développement d'opérateurs de transports internationaux spécialisés dans le fret express. Localement, cela se traduit par une augmentation du volume de fret express à traiter, un changement du flux douanier avec une hausse des petits colis individuels et donc à une pression accrue sur les plateformes logistiques. Le projet de loi du pays propose de réduire les 6600 positions tarifaires existantes en 52 grandes familles de produits. Cette taxation simplifiée pour les envois express permettrait de fluidifier les formalités douanières des petits colis express, d'alléger la charge administratif pour les opérateurs et d'assurer un recouvrement fiscal proportionné tout en améliorant son efficacité. Dans un tout autre domaine, le gouvernement a procédé à plusieurs nominations dans le cadre de la réorganisation de la DSCGR, la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques. Thomas Depardon et Alexandre Rossignol sont nommés directeurs adjoints, le premier comme chef de groupement opérationnel et le second comme chef de groupement prospective et développement. En revanche, il est mis fin aux fonctions de Victor Letézer comme directeur adjoint de la DSCGR.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 67% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent inquiets de la réélection d'Emmanuel Chibaou à la présidence de l'UC. Ils sont 22% à se dire rassurés par cette réélection. Et enfin, ils sont 11% à se dire surpris qu'Emmanuel Chibaou ait été reconduit à la tête de l'UC. Notre question du jour, le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie sera examiné le 24 février par le Sénat. Pensez-vous que la réforme ira jusqu'au bout et qu'elle sera adoptée par le Congrès de Versailles? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Travailler sur une relance économique à moyen et long terme, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'urgence sociale, car elle est toujours une réalité, estime Luçoinck, qui a annoncé une mobilisation le 3 février prochain, Jean-François Bodin.
Oui, la réalité, c'est que de nombreux Calédoniens souffrent et n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, expliquent les responsables de Luçoinck, qui affirment que l'urgence sociale n'est pas derrière nous. Luçoinck estime que les choses ne vont pas assez vite pour essayer de la résorber, et c'est pour faire valoir cette position et mettre, ce sont les mots utilisés par les responsables du Luçoinck, les politiques face à leurs responsabilités, que Luçoinck organise le 3 février prochain une mobilisation devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alexis Fallet-Matager est le secrétaire général adjoint de Luçoinck.
La mobilisation du 3 février, tout d'abord, c'est un ras-le-bol de participer à beaucoup de réunions, des réunions et des réunions, et on a besoin de répondre à l'urgence sociale. On ne veut pas des promesses, mais des actes concrets pour la population qui souffre aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger le court terme, le moyen terme et le long terme. On a l'impression de tout mélanger. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du très court terme. Quand on entend dire que l'urgence sociale est derrière nous, pour nous, Luçoinck, c'est inacceptable. Parce que c'est faux. Ça ne représente pas la réalité du terrain. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de se focaliser sur le court terme. Bien sûr que ça va prendre du temps sur les stratégies moyen-long terme. Et ça, Luçoinck sera très vigilant à se faire entendre sur l'urgence sociale et économique en Nouvelle-Calédonie.
Luçoinck participe à toutes les réunions liées à la relance et à l'attractivité économique. Elle a contribué aux travaux de la mission interministérielle dirigée par Claire Durieux. Mais elle estime que la voix des partenaires sociaux n'est pas assez prise en compte. Le syndicat souhaite ainsi la création d'un nouveau contrat social.
Ce qu'on veut, c'est un nouveau contrat social. Aujourd'hui, on voit les défaillances sur les différentes instances où nous sommes représentés. Nous avons besoin de parler haut et fort par rapport à l'argent massif qui va être donné par l'État, comment ce fléchage va être fait au plus juste. Et c'est pour ça qu'on demande un contrôle social pour pouvoir justement s'assurer que les montants financiers vont bien à l'équilibre et travaillent pour cet argent travaille pour le peuple.
Ce fléchage des aides de l'État, Luçoinck en fait une priorité pour s'assurer que l'argent profite bien aux politiques publiques liées à l'emploi, au pouvoir d'achat ou encore à la réduction des inégalités, mais aussi aux régimes sociaux ou au système de retraite CAFAT. Sur ce régime de retraite CAFAT, il est aussi temps de mettre des mesures en œuvre, a expliqué Alain Monnier, c'est le secrétaire général adjoint du Soinc Retraite.
Oui, il y a des pistes envisagées qui pourraient aider. Mais il faudrait les déclencher très très rapidement. Notamment, il faudrait récupérer les dettes des centres hospitaliers, parce que pour la retraite, il y a un manque à gagner de 5 milliards que doivent les CHC. Mais c'est un cercle vicieux. Ça dépend du RUAM également, parce que le RUAM ne peut pas régler les dettes vis-à-vis des centres hospitaliers. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Le gouvernement a fléché dans son budget 5 milliards pour le RUAM et 2 milliards pour la retraite. Et nous, on voudrait que ces 5 milliards qu'ils soient fléchés justement pour la caisse de retraite au travers du RUAM, de façon à pallier au manque de cotisation des CHT, parce qu'on sait que pour finir l'année, il faut entre 7 et 8 milliards pour pouvoir payer les pensions pour 2026.
Et enfin, du soin que s'oppose évidemment au prélèvement supplémentaire dans les 2% du FSH voté par les élus du Congrès, c'était en décembre dernier, et qui aurait été décidé sans l'accord des partenaires sociaux. C'est un mauvais signal, estime Alexis Fallet-Matagia.
On est en train d'assister à des coups de force de nos politiques à prendre sans concertation l'argent des ouvriers. Les partenaires sociaux, à un moment donné, on n'est pas écoutés, notamment sur le FSH, le 2%, où la majorité des partenaires qui siègent autour de la table, patronale comme salariés, ont été en désaccord sur ce sujet de manière concertée. Bien sûr que l'urgence sociale, elle se fait aussi au logement par rapport au FSH. Ils sont très responsables sur ça. Mais par contre, il faut leur demander la permission. Quand on vient augmenter 30% une subvention, c'est inacceptable pour Luçoinck parce que cet argent, je le rappelle encore une fois, c'est l'argent de la sueur des travailleurs.
Et c'est pour toutes ces raisons que Luçoinck organise donc sa mobilisation le 3 février prochain devant le Congrès et parle déjà, si ces revendications n'étaient pas entendues, d'organiser d'autres actions syndicales.
Notez que nous reparlerons de cette urgence sociale demain matin. Jean-Marc Burette, le secrétaire général de Luçoinck, sera en effet notre invité du matin à 7h30. Un autre rendez-vous d'antenne demain dans les jeudis de l'économie. Nous scruterons l'état du marché automobile en ce début d'année. On sait qu'il souffre lui aussi des conséquences des crises successives et qu'il a aussi été particulièrement visé lors des émeutes de mai 2024. Quels sont les chiffres des ventes, les évolutions? Nous en parlerons avec Laurent Jandot, directeur du groupe qui porte son nom et président de l'association professionnelle des concessionnaires automobiles, avec Stéphane Grousset, directeur commercial de CPH, Walter Hickson, directeur général des concessions Mazda, et Benoît Guillemard, directeur d'Autovolt et d'Autocaz. Il est tout pile 18h, première pause dans ce journal avant de parler rentrée universitaire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 4020. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 4020. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 4020.
Info soir, Léana Colombo.
À quelques jours de la rentrée universitaire prévue la semaine prochaine, les étudiants calédoniens découvrent leur nouveau logement. Sur le campus de Nouville, la SIC et la maison de l'étudiant proposent jusqu'à ce vendredi des journées d'information et d'intégration. Cette année, ils sont un peu moins de 800 chanceux à avoir obtenu une place dans un logement situé à Nouméa, Dumbéa ou Koné, alors que près d'un millier d'étudiants a déposé une demande cette année. Plusieurs logements de différentes tailles sont proposés et à des prix avantageux. Si l'on est boursier, explique Didier Patiaré, gestionnaire immobilier pour la SIC.
Plus de 80% ce sont des jeunes qui bénéficient des bourses, donc qui bénéficient de l'aide au logement. Et on a une petite partie qui est non boursier, qui paye des loyers plein pot. Et le reste paye un loyer modéré, enfin vraiment modéré à 5 000 francs. Ouais. C'est simple, hein, un loyer de 46 000, vous tombez avec un loyer de une participation de l'étudiant de 5 000 francs. Donc 5 000 francs, c'est raisonnable par rapport à des bourses qui sont de 60 000, 70 000. Quoi. Donc ils peuvent régler le loyer et régler leur nourriture de tous les jours et toutes les charges afférentes au logement. Quoi. Nous proposons des logements individuels, donc, et puis des logements à la colocation à 3 ou 2 colocs. Donc, c'est des logements, ils sont complètement autonomes dans les logements, c'est-à-dire qu'ils peuvent cuisiner, ils ont leur petite chambre, et puis ils peuvent travailler aussi. La salle d'eau, la douche, donc ils sont complètement autonomes dans les logements. Malheureusement, on n'a plus de logements à l'heure actuelle. On est vraiment désolé pour ça. Et c'est vrai qu'il y en a en gros une centaine d'étudiants qui sont en attente de logement. Et malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde.
Tous les bénéficiaires de logements sont soumis à un règlement. Cela peut aller de l'assiduité dans les études au comportement adopté entre résidents dans les appartements. Mais pas de quoi inquiéter tous les étudiants impatients d'acquérir leur indépendance.
J'ai pas la même chambre que l'année dernière, j'ai pris une nouvelle. Ça va, elle est bien quand même, c'est assez bien équipé. Je vais être en classe préparatoire à Jules Garnier, du coup c'est un plus pour moi d'avoir un logement ici.
Je viens d'MBA pour faire ma demande, comme je vais aller à l'université cette année.
Première rentrée ?
Oui, du coup ça me stresse.
Cette année, elle a sa majorité et c'est aussi pour la responsabilité, pour qu'elle soit plus responsable et soit plus autonome.
Mon école, c'est à côté de Jules, voilà, du coup, c'est très pratique pour aller à l'école, c'est pas loin. En plus, ça va, les logements, ils sont bien quand même. C'est tout équipé, etc. Il y a four, lit, armoire, c'est bien. J'ai déjà vécu ça l'année dernière, du coup, ça va, c'était bien. Au moins, on peut voir ses copains pendant le week-end, etc.
Les étudiants peuvent visiter leur logement cette semaine, mais l'entrée officielle ne se fera qu'à partir de lundi prochain, soit le 2 février. Côté réhabilitation, un chantier avait été lancé l'an dernier dans la résidence du bord de mer à Nouville pour 60 millions de francs. Les travaux sont toujours en cours, mais devraient s'achever prochainement, offrant ainsi 100 places supplémentaires pour les étudiants. Et bonne nouvelle pour les usagers du Béticho et les étudiants. Une nouvelle rotation a été ajoutée au début du mois de février pour permettre aux écoliers et donc aux étudiants des îles Loyautés d'effectuer leur rentrée scolaire. Le jeudi 5 février, le Béticho partira de Nouméa à 7h du matin, puis se rendra à Lifou à midi et atteindra Marais à 15h30, puis retournera à Nouméa à 19h30. Attention, le dépôt de fret se fera la veille du départ sous réserve de disponibilité et selon le taux de remplissage. Du côté des usagers de la route, une baisse de prix pour les carburants le mois prochain. Dès le 1er février, l'essence sera affichée à 152 francs 70 le litre contre 158 francs 80 au mois de janvier, ce qui représente une baisse de 6 francs 10. Côté gasoil, les stations afficheront un prix en baisse de 8 francs 30 le litre, passant de 144 francs 40 à 136 francs 10, et ce, dès dimanche. L'actualité dans le Pacifique, en Australie, de gigantesques incendies de forêt continuent de brûler dans le sud-est. Une importante vague de chaleur est en cours et les records s'enchaînent. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Il a fait 49,5 degrés lundi à Ceduna, une petite localité littorale d'Australie méridionale, où 49,6 degrés ont été enregistrés hier à Renmark. Partout ailleurs dans le sud-est du continent, le thermomètre a très largement dépassé les 45 degrés hier. Pour la petite histoire, le record absolu de température est détenu par Oundata, 100 habitants, 875 km au nord d'Adélaïde, capitale de l'Australie méridionale, où il a fait 50,7 degrés en 1960. L'actuelle vague de chaleur pourrait aussi être à l'origine des gigantesques incendies qui ont déjà détruit plusieurs habitations et ravagé des dizaines de milliers d'hectares de végétation dans le Victoria, où ils sont combattus par des centaines de pompiers volontaires. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h passé de 7 minutes, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité sportive du tennis avec les quarts de finale de l'Open d'Australie, Michael Juneski.
Oui, et honneur aux dames, on va commencer par le tableau féminin. Et la surprise aujourd'hui, c'est la victoire de la Kazakh Elena Rybakina face à la Polonaise Iga Świątek, tête de série numéro 2 dans le tournoi. Un match qui aura duré moins de 2 heures, 7-5, 6-1. L'autre quart de finale, une confrontation 100% américaine, aura vu la victoire de Jessica Pegula contre Amanda Anisimova, 6-2, 7-6. On connaît donc les affiches du dernier carré chez les dames. Dès demain, Jessica Pegula sera opposée à Elena Rybakina. L'autre demi-finale opposera la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka, à la compagne de Gaël Monfils, l'Ukrainienne Elina Svitolina. Dans le tableau, messieurs, maintenant, une nouvelle surprise aujourd'hui, il y a quelques minutes en fait. Novak Djokovic, l'ancien patron du tennis mondial, qui a gagné par forfait face à l'Italien Lorenzo Musetti. Le Serbe n'était pourtant pas en position de force. Il avait perdu les deux premiers sets, 6-4, 6-3. Oui, mais dans la troisième manche, son adversaire, qui se plaignait d'une douleur à la cuisse droite, a fini par jeter l'éponge. Djoko est donc toujours dans la course, après avoir déjà évité de jouer son huitième de finale sur forfait de Jakub Mencić. Un scénario qui pourrait avantager le Serbe de 38 ans s'il arrive préservé physiquement pour défier les nouveaux jeunes rois de la petite balle jaune dans le dernier carré. Yannick Sinner, justement, de son côté, le deuxième joueur à l'ATP, affrontera ce soir l'Américain Ben Shelton pour tenter de rejoindre en demi-finale Carlos Alcaraz, qui retrouvera lui Alexander Zverev. Allez, notez encore que du côté des Français, nous avons une jolie chance dans le tableau des doubles mixtes. La paire Manuel Guinard-Kiki Mladenovic joue ce soir la demi-finale contre le duo israélo-brésilien Marcelo Arevalo-Luisa Stefani. On pourrait donc tout de même voir des tricolores en finale à Melbourne. Anne.
Et après avoir parlé tennis, on passe au sport côté calédonien. On parle rugby à 13 avec la belle aventure du club Pacific 13 en Nouvelle-Zélande.
Oui, nos jeunes représentants, ils se sont inclinés hier sur le score de 48 à 4 contre Northland Pacifica Rugby League. C'est l'équipe aguerrie de Whangarei, une sélection régionale du nord du pays. C'était la première rencontre au programme dans ce séjour. Score qui peut paraître sévère, mais qui ne reflète pas l'intensité du match et surtout la belle leçon pour les Calédoniens. Manu Jalabert est le responsable du club Pacific 13.
Les choses sérieuses ont rapidement commencé puisque les entraînements se sont enchaînés et nous avons disputé hier notre premier match contre une sélection du nord de la Nouvelle-Zélande avec une équipe bien solide en face et nos jeunes Calédoniens ont combattu âprement et franchement ils nous ont super étonnés dès le haka où ils avaient préparé une danse qui s'appelle le Faivatoa. Les deux danses se sont confrontées en même temps, c'était assez impressionnant, tous les spectateurs qui était là, on avait des frissons. Et après, évidemment, l'expérience a parlé et l'expérience, c'est surtout la densité physique des adversaires parce que quand même, on voit la différence par rapport à nous. On est un peu léger en musculation, etc. Bon, les Calédoniens n'ont pas à rougir de leur défaite, au contraire. C'était une expérience formidable. C'est loin d'être une victoire, mais en tout cas, c'est une magnifique expérience pour les enfants. Ils vivent à fond leur trip néo-zélandais. On est en plein pays maori et on est accueillis de cette façon et franchement, c'est génial pour eux et c'est vraiment quelque chose qui va les faire grandir.
Manu Jalabert, le responsable de l'équipe Pacific 13. Nos représentants auront droit à leur revanche vendredi dans ce séjour d'une semaine avec encore une confrontation prévue face aux joueurs kiwi pour ce Aotearoa Tour. Voyage formateur avant tout pour le futur du rugby à 13 calédonien.
Miguel, on parle karting à présent pour continuer de suivre les performances du jeune Raphaël Gilles, qui s'illustre régulièrement dans les compétitions jeunes en Australie.
À 11 ans, l'un des jeunes prodiges venus de l'école de Nakutakouin va mettre toutes les chances de son côté en allant suivre les compétitions australiennes à temps plein, un déplacement de plus de 8 mois. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises sur l'île continent et il a été détecté notamment sur place par le coach David Serra, 18 fois champion d'Australie, 55 fois champion d'État, vice-champion du monde 2011 et de nombreux autres succès autour du globe. Raphaël Gilles a été intégré dans la Team Kart Class et il va faire un pas de plus vers son rêve dans le haut niveau.
Cette année, je vais vivre en Australie, notamment avec mon père et ma mère qui m'accompagnent dans cette aventure. Je suis très content parce que c'est un gros budget quand même. Moi, je pourrais me battre contre plus de pilotes.
Jusqu'à maintenant, chaque déplacement, c'était beaucoup de contraintes.
J'arrivais sur les circuits, je les connaissais pas. Les autres pilotes, ils étaient nés dessus, du coup, c'était un peu compliqué. Mon coach a persévéré, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. J'ai persévéré, j'ai gagné des courses. Et... Bon, on va pas dire que j'ai beaucoup de talent, mais oui, j'en ai quand même. J'espère franchir ce grand niveau, ce gap. J'espère combattre et persévérer pour finir dans le premier groupe du classement. Tous ceux qui m'écoutent, j'espère que vos rêves se réaliseront, comme moi, que j'essaye de le faire. J'aimerais être pilote de F1, comme beaucoup de pilotes. J'aime vraiment ce rêve, vu que j'aime la vitesse, l'adrénaline et j'aime vraiment courir.
Un projet qui nécessite des sacrifices. Il suivra les cours par correspondance et pour se consacrer à son sport les après-midi. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle de plus pour le président de l'ASKC, l'Association sportive de karting calédonien, Damien Robot.
C'est une très belle nouvelle. Hein. Ça montre que le niveau du karting calédonien, il est loin d'être en fond de grille, hein, justement. Hein. On parle de sport mécanique. Le petit Raphaël qui arrive à avancer et à aller justement tenter l'aventure en Australie. Et je trouve que c'est une très bonne opportunité pour lui. Ça valorise un peu la discipline aussi en Nouvelle-Calédonie. On a fait pas mal de boulot en local hein, avec la remise en place de l'école de karting où on a en moyenne 12-15 pilotes qui sont là chaque année, qui démarre aussi la compétition et c'est là où on découvre nos jeunes prodiges. Certains ont la possibilité de partir, trois pilotes qui le font depuis maintenant bien 3-4 ans, deux vont en Australie, donc le Raphaël, et on a un autre pilote, Luca, qui lui fait des allers-retours, donc c'est plus compliqué. Et puis il y a le troisième qui lui part régulièrement en métropole, Ilan, qui va participer en course en France. C'est très bien pour le karting.
Des pilotes qui se font remarquer dans les jeunes catégories d'âge. Luca Padovese-Robo, Ilan Fandou et donc Raphaël Gilles. Ils espèrent bien entendu trouver du soutien pour continuer de représenter la Calédonie. Raphaël Gilles qui sera notamment à suivre prochainement sur une page dédiée sur les réseaux sociaux dans son aventure face aux meilleurs jeunes Australiens du karting.
Merci Mickaël. On passe la première et on voit tout de suite la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
La météo, c'est avec vous Pierre.
Et je passe la deuxième. Cette nuit, aux Loyautés, sur la pointe sud et à l'île des Pins, le temps restera nuageux avec des averses éparses, localement modérées sur l'extrême sud et marées. Ailleurs, le ciel sera peu nuageux et le temps restera sec. Le vent de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds en soirée, puis faiblira progressivement. Il deviendra souvent inférieur à 10 nœuds, voire 5 à 10 nœuds sur le nord et l'est. Les températures nocturnes resteront douces, entre 20 et 24 degrés. Demain matin, une dépression située au sud-est de Tanao Vanuatu se rapprochera de Hunter. Elle drainera des nuages accompagnés d'averses sur le sud et les Loyautés, plus fréquentes sur l'extrême sud. Mais par contre, pas de stress, hein, elle ne nous concerne pas directement et passera à l'est de la Calédonie cette nuit. Sur le reste du territoire, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux. Le vent sera souvent variable et faible, notamment sur le nord, l'est et aux Loyautés. Ailleurs, il s'orientera au sud autour de 10 nœuds. Côté mer, elle sera basse en soirée aux alentours de 21h58, elle remontera en fin de nuit avec une pleine mer attendue vers 5h avant de redescendre en matinée pour une nouvelle basse mer demain vers 10h50. Et côté ciel, la lune sera bien présente cette nuit avec une luminosité autour de 75%, de quoi offrir un beau clair de lune, surtout là où le ciel restera dégagé.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.